Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Au mois de mars de cette année, je recevais Lesio en stage à Radio B, tout jeune homme de 18 ans, et il avait des choses à nous dire. Bonjour Lesio.
Bonjour.
Lesio, ce nom n'est pas commun.
C'est vrai, parce que c'est mon nom d'artiste.
Ton nom d'artiste, c'est-à-dire ?
Tout à fait. Je suis rappeur. C'est un mot très prétentieux, mais c'est ça, c'est mon nom d'artiste.
Lesio, tu as eu dans ta vie des bouleversements, malgré que tu sois un tout jeune homme.
Mm-hmm.
Et tu as connu un bouleversement majeur il y a très peu de temps.
Ouais, c'est ça, c'était il y a 2 ans. En fait, comme je l'ai déjà dit dans des morceaux, j'ai déjà dédié des lignes là-dessus. J'ai eu mon petit frère qui a eu une leucémie.
Ça s'est passé quand, comment ?
Alors, en fait, c'était il y a 2 ans. Leucémie, il y a forcément des gens pas très bien renseignés sur le sujet, c'est un cancer. C'était il y a 2 ans, ça s'est passé en janvier 2020. Ouais, juste avant le Covid. En fait, c'était un soir où on était tout simplement au restaurant.
Oui, vous étiez où ?
À Lyon, avec de la famille, au restaurant. Et en fait, mon frère a commencé à avoir des ganglions dans le cou. Et ça, ma mère, elle l'a remarqué, là, directement.
C'est apparu pendant le repas. Enfin, elle l'a observé pendant le repas.
Ouais,
quelque chose qui n'était pas apparu avant.
Bah, des ganglions dans le cou, ça se remarque. Hein.
Oui.
Non, puis les jours d'avant, il était un petit peu fatigué, mais
ouais. Rien
de bien méchant. Une fatigue du genre, il allait se coucher plus tôt, il avait moins d'énergie, mais rien de bien méchant en soi. Mais il était plus fatigué. Bah, bref, du coup, on remarque ça. Ma mère, elle devient folle. On va à l'hôpital, aux urgences. Ils l'auscultent. Les médecins auscultent mon frère. Après, ils reviennent et ils annoncent la nouvelle qui... Ouais, c'est une nouvelle, ça met un coup de massue dans la tête parce qu'ils viennent me voir. Moi, à ce moment-là, il faut savoir que j'ai 16 ans. Je suis encore très, très inconscient de la vie, entre guillemets. Et ils viennent et ils m'annoncent, bah voilà, ton petit frère a un cancer. Et là, waouh, ça met quelque chose en tête, ouais. C'est sûr.
Ouais, c'est un événement heureux, vous êtes au restaurant.
Ouais, on est au restaurant, rien de bien méchant, hein, on est tous en famille, tout va bien. Si on apprend ça, en fait, c'est une soirée qui tourne au cauchemar, parce que ça part d'un samedi soir au restaurant à il est minuit et on est aux urgences, en fait.
Oui, et après, il y a un enchaînement.
Ouais, il y a un enchaînement parce que moi, quand on m'annonce ça, je prends un énorme coup dans la tête. Ce genre de choses, on se dit, ça arrive que dans les films, que aux autres, que dans les anecdotes ou dans les faits divers, mais jamais à soi. Ouais, et du coup, moi, on m'annonce ça, donc je prends un très très gros coup de massue. Ils le transfèrent dans un hôpital plus conséquent où ils pourront mieux l'ausculter. Du coup, on n'a pas le droit de monter dans le camion de pompiers, on suit derrière, et dans la voiture, ouais, il n'y a personne qui parle.
D'accord. Quelle était ta relation avec ton petit frère ?
Très proche, parce qu'on a 6 ans d'écart, à ce moment-là il avait 10 ans, très très proche parce que, en fait, je lui ai toujours parlé comme à quelqu'un de mon âge, donc très mature aussi, mon frère est très mature et ouais, on est très proche, je lui parle comme un ami en fait, et depuis ça encore plus.
D'accord, donc tout change, ton frère est transféré d'hôpitaux en hôpitaux,
ouais.
Et comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là ?
J'arrive dans un hôpital, dans ma tête je suis absent. Je suis ma mère qui va où elle va, je suis mon frère. On passe dans des souterrains de l'hôpital où ils le transportent carrément dans la civière, je crois que c'est ça. Ils le transportent par les souterrains parce qu'il faut aller vite. Moi je suis là, je regarde mon frère, je regarde ma mère et en fait dans ma tête je crois que je suis un peu mort à ce moment. Ouais, je crois que ce soir-là il y a quelque chose qui est mort chez moi. Peut-être mon innocence et mon inconscience. Depuis ça je suis très conscient des choses que je fais et que je vois. Mais du coup, je le suis dans ma tête, je suis complètement absent, je fais ce qu'on me dit de faire.
Et qu'est-ce qui va te faire sortir de ce temps de sidération ?
Je ne me rappelle pas vraiment, je crois que c'est d'avoir dormi, parce que j'arrive à l'hôpital, je parle avec une psychologue.
Qu'est-ce qu'elle te dit, la psychologue ?
Elle me dit, elle prend un très gros risque, parce qu'elle me dit, il va s'en sortir. Mais à ce moment-là, elle ne savait pas vraiment si c'était le cas. Du coup, elle me dit, il va s'en sortir, elle me l'assure. Ça a été un risque qu'elle a pris, mais elle a eu raison.
Et est-ce que ce leitmotiv ensuite
Ça me motive, ça me donne de l'espoir. À ce moment-là, j'ai besoin d'espoir. Elle me dit tout ça, je dors pas de la nuit. Très tôt le matin, mon frère il est dans son lit d'hôpital, je tombe de fatigue. Et en fait, je dors, j'arrive à oublier tout ça. En fait, je me réveille, je me rends compte que c'était bien réel. Ouais, mais c'est avec les jours, mais je suis resté très très longtemps absent et vide, en fait.
Et après, donc, ça s'installe dans une normalité, cette relation, puisque donc il faut vivre avec cette maladie. La maladie de ton frère, comment ça se passe dans la vie?
Au bout d'un petit moment, hein, d'un petit moment, ça se fait pas très rapidement. Ça se fait au fil des semaines. Pendant longtemps, j'arrive pas à réaliser. Et pendant longtemps, je me dis, non, c'est pas possible, je suis dans un film.
Oui.
Mais avec le temps...
Et alors,
on s'y fait.
Tu sors du film?
Ouais, ouais, ouais. En plus, il y a le Covid qui est arrivé juste après.
Oui.
Non, à ce moment-là, ma vie était clairement... J'étais dans une série, en fait.
Oui.
Une maladie comme ça, mon frère.
Mais tu sors du film pour arriver dans la réalité. Et est-ce que tu vas... Comment ça va se passer?
Je pense
c'est un passage à la réalité pour toi.
Je pense qu'on s'habitue toujours à tout. C'est à partir du moment où j'arrive à l'accepter. C'est peut-être un peu comme un deuil ou une rupture, en fait. Il y a un moment où on arrive à accepter la situation et on vit avec.
Et est-ce que l'espoir dont a parlé la psychologue, il est en toi et il va t'aider?
Toujours, toujours. J'essaie d'avoir beaucoup d'espoir parce que sans ça, on ne vit plus. Et parce que ma mère me dit que ça va aller, mon frère me dit que ça va aller. Non, et puis c'est vrai que les médecins étaient conscients. Étaient confiants.
Étaient confiants.
Ouais.
Et comment se passe la relation avec ton petit frère à ce moment-là?
Beaucoup plus forte. À ce moment-là, j'essayais de tout le temps être très gentil avec mon frère. On se disputait plus. Et un jour, ma psychologue, elle m'a expliqué, bah non, mais en fait, ton petit frère, il a besoin de son grand frère qui le dispute aussi. Ouais. Mais j'y arrive pas à ce moment-là à me prendre la tête avec mon frère. Moi, je peux pas. Du coup, avec le temps, ouais, c'est différent avec mon frère parce que j'essaie d'être beaucoup plus gentil, beaucoup plus attentionné et de vraiment toujours aller dans son sens. Mais mon frère, même lui, m'avait dit qu'il voulait pas ça. Et puis, je suis encore plus proche de lui après ça. Du coup, après, il est à l'hôpital. Moi, je reprends ma vie parce que ma mère veut me protéger de ça. Elle veut pas que j'y sois tout le temps, mais ma mère, du coup, a carrément arrêté son travail et tout parce qu'elle était tout le temps à l'hôpital avec lui, elle dormait là-bas et tout. Moi, je reprends le lycée. Il y a des longues semaines où je suis tout seul chez moi. Ça m'a appris à être autonome aussi. Mais il m'appelait tous les soirs, mais du coup, bah, j'allais au lycée. Et puis, j'ai pu constater que les jeunes de mon âge ont des problèmes vraiment très futiles comparés à ça parce que moi, je me plaignais pas, j'en parlais pas. Et quand je vois des gens se plaindre pour leurs soucis, ouais, je me disais c'est quand même très absurde.
Donc, qu'est-ce qui change en toi fondamentalement?
Fondamentalement, qu'est-ce qui change? Je dirais que je suis plus conscient que je suis content d'être en vie.
Oui.
J'arrive à comprendre que c'est une chance. Je profite des instants présents. Je relativise.
Tu relativises.
C'est-à-dire un problème qui pouvait m'énerver avant ne m'énerve plus après ça.
Oui.
Je suis très zen.
Et ton frère également change-t-il?
Ouais, mon frère devient encore plus mature et voit le vrai visage des gens. Parce que dans ce genre d'expérience, on voit les personnes qui restent, parce que c'est des vraies personnes, et on voit les personnes qui partent parce qu'ils étaient juste là pour les bons côtés. Et mon frère voit les gens qui prennent de ses nouvelles, voit les gens qui partent, et mon frère, déjà qu'il était très mature, là il prend 5 ans de maturité dans la tronche, quoi. Il devient encore plus mature, plus fort dans sa tête, plus intelligent. Ouais.
Est-ce que ton petit frère t'impressionne?
Oh, mon frère m'impressionne, il est très très courageux, plus que je le serai jamais. Par exemple, pour l'anecdote, je dois me faire opérer des dents de sagesse, j'en meurs de peur. Mais quand je lui en parle, il me rit au nez, parce que lui, des opérations, il en a fait, mais plein. Ou même les piqûres, j'ai peur d'une prise de sang. Mon frère, mais des prises de sang, il en faisait tous les jours. Mon frère m'impressionne, il a un courage, à seulement 12 ans, que j'aurais certainement jamais. Mon frère est beaucoup trop fort.
Donc tu es face à une sorte d'émerveillement face à ton frère, et puis face à la vie?
Ah oui, face à la vie, parce que je me dis que je suis quand même content d'être en vie et que mon frère le soit aussi. Je me rends compte que c'est une chance. On ne s'en rend pas bien compte tout le temps. Je suis très content de ça. Et puis voilà, mon frère m'impressionne tous les jours. Et puis surtout, comment il s'en est remis. Il s'est remis de ça en seulement 2 ans.
Maintenant, voilà, donc il y a eu une issue positive.
Ouais,
c'est
ouais,
très important.
Très. Ouais. Bah oui, parce que du coup, les amis que j'ai gardés suite à ça, je suis encore plus soudé avec. La famille aussi.
Oui. Vous avez gagné le combat?
Ouais, carrément, on l'a gagné. Hein. Après, là, il y a 5 ans de rémission, où il est un petit peu... Mais là, il a repris des cheveux, il retourne au collège, il n'a plus de médicaments à prendre. C'est le retour à la vie normale, en fait. Je fais des activités avec lui, chose qui n'était pas possible avant.
Oui, parce que ton frère a été dans des situations très, très inconfortables.
En fait, il n'avait plus du tout de défense immunitaire. Ce qui faisait qu'un rhume pouvait être très, très, très grave pour lui. Ce qui faisait qu'il ne pouvait rien faire. Il était soit à l'hôpital, soit à la maison. Mais maintenant, on va au restaurant, on va au cinéma. On fait plein la vie normale, en fait.
Ouais. Donc, ton frère, ce qu'il ne pouvait pas faire avec son corps, il a développé dans son cerveau.
Mon frère se cultivait beaucoup plus, du coup, évidemment. Il regardait des films, des émissions, il jouait aux jeux vidéo. Mais après, je veux dire que le moment où lui, il pouvait rien faire et qu'il était obligé de rester chez lui, c'est le moment où il y avait le confinement. Donc, il n'est pas trop décalé avec tout le monde, finalement.
Hein, tu m'as dit hors antenne une anecdote qui était drôle par rapport au masque.
Ah oui, oui, bah parce que moi, en fait, c'est tombé en janvier, le 27 janvier. C'est une date qui va, m'a marqué très longtemps. En fait, moi, c'est tombé là. Du coup, comme mon frère n'avait plus de défense immunitaire, j'ai dû porter le masque avant tout le monde. Et au début, à cette époque-là, avant le Covid, qui connaissait le masque? C'est un truc qu'on voyait dans Grey's Anatomy quand ils opéraient. C'était quelque chose, on ne connaissait pas cet objet. Et du coup, moi, je devais le mettre tout le temps au lycée pour rien lui ramener à la maison. Et quand je le mettais au lycée, les gens, ils me regardaient bizarrement, en fait. J'ai eu des jugements, des gens qui disaient « Waouh, il est bizarre », des gens qui venaient me parler. Alors maintenant, ils le mettent tous, du coup. Ouais. C'est leur karma.
Lesio, tu es devenu un autre artiste?
Oui, je pense.
Parce qu'au fond de toi, tu es un artiste.
Oui, probablement.
Et quel artiste es-tu aujourd'hui?
Un artiste plus conscient. J'essaie plus d'écrire des choses réelles. Je parle de ma vie beaucoup. Et j'aimerais apprendre aux gens comment être heureux. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a la possibilité d'être heureux, je pense. C'est sous le coude. Donc j'aimerais transmettre des bonnes ondes aux gens.
Et donc tu es peut-être moins dans des choses superficielles dans tes textes? Comment peut-on dire?
Moi, je pense que je suis d'accord avec ça parce que il y a beaucoup de gens qui font de la musique et même moi au début qui le font pour faire des rimes ou juste parce que ouais, le rap c'est cool. Non, j'essaie vraiment de faire passer un message. Et surtout que du coup, depuis cette maladie, moi, en fait, quand il nous arrive quelque chose comme ça, il faut être encore plus fort et il faut avoir une activité. On peut pas tout garder. Il faut soit avoir du sport, tout ça. Bah moi, c'était la musique. Ce qui fait que du coup, j'ai un lien encore plus fort avec ça.
D'accord, dans une activité créative.
Ouais.
Et l'émission se termine, Lesio. Est-ce que tu aurais un message à faire passer?
Tout à fait. Je tenais à dire pour toutes les personnes qui souhaiteraient soutenir cette cause de la leucémie, des cancers, des enfants, vous pouvez faire un don à un site internet. Alors attention, soutenir.centreleonberard.fr. Sans majuscule, sans accent, tout en attaché, je répète, soutenir.centreleonberard.fr. Et voilà.
Merci Lesio.
Merci à vous.
Et maintenant, on va t'écouter.
Merci.
Apnée, deuxième volet. Apnée, partie 2.
C'est qui compte sur moi? Rater, c'est comme perdre espoir, tu le vois. Je ne peux pas écrire si j'y mets pas mon âme. Je range mes lunettes, je passe au macadam. Sur l'écran, je me vois. En rosant bleu, ouais, maman, c'est moi. Je numérise infos confidentielles. Mettez pas la main sur ma résidentielle. Je suis comme un otage qu'on a zappé pour diffuser un match. Ma kilo d'heure par un simple tic-tac. Je sais pas lire, j'ai tourné plusieurs pages. Je n'ai lu qu'un passage. J'ai pas suivi, j'aime pas trop le battage. Pour qui tu te lèves quand tu n'as plus personne? Arrête de bavarder de somme. L'humanité est dégoûtée de l'homme. Et je m'en rappelle, avant d'être là, personne ne m'écoutait. J'aurais pu dire que j'étais pas bien dans chacun de mes couplets. Pourquoi c'est ça quand t'es personne? Le game m'a dégoûté. Je parle à lui, je parle à l'autre, mais je veux pas m'intégrer. Regarde cette fille sur le banc seule qui attend son procès. S'est faite violer, mais la justice ne va pas condamner. Dealer en tôle et dans la rue, pédophile de sortie. J'aime bien la France, je n'aime juste pas les gens qui la dirigent. Vaut mieux pas compter sur le moi, ils ont des tout ce qui bouge. J'ai plus vraiment de problème, pourquoi? Car je les mets sur la touche. Je te veux rien, mais t'es sournois, donc je t'arracherai la bouche. Vous devez pas compter sur moi, ils détruisent tout ce qui bouge. J'ai la solution. Pour pas m'oublier quand le monde s'écroule. Je roule un deux feuilles pour apaiser mes doutes. Devant l'ordinateur, j'ai vu qu'on passait. Animaux défigurés, tout le monde les partage. Personne ne vient les aider. Préfère manifester pour la mixité des jouets. Je prendrai plus le risque de confier mon cœur à une femme. Jamais. Moi, mon quotidien, c'est sans cesse d'esquiver des femmes. Jamais. Je ne t'entends plus, double vitrage, via le tirage. Je ne vois pas mes amis, car mes amis, eux, ils me savent. Porte transversale, dans la lucarne et je transperçale. Je pense à Nina quand je m'allume pas. Je pense à Chloé quand je m'allume sale. Porte, je l'ai fait sale, pas de remords, je suis qu'un sale bâtard. Aucun regret, dans un revêt, je te reconnais dans une levrette. Pourquoi la haine sur internet, ça fait autant cliquer. Des scuffons et BFM, ces gens veulent diviser. Par la colère et le racisme, ils vont juste nous quitter. Vers un monde gris que par le mal se fera diriger. Putain, je dois me délivrer, faire chanter les langues déliées. Cigarette dans la Bévue, je pense à ma vie sur la belle vue. Belvédère et je tape un verre de Sder. C'est que des fers de guerre sont comme des vers dentaires. Comment être heureux, moi je sais le faire. Me bouger le cul, c'est la première étape. J'avancerai jamais, on m'attend de steak stap. L'information est détournée par Snap. La formation est détournée pour Cap. Mais qu'est-ce que tu peux faire? À part penser qu'à toi-même, pour changer les choses, faudrait changer son reflet. Ou protéger ses refrains. On a peur de personnes comme Katinatra. On s'est tiré qu'on Katinatra. Je vais même pas prier, tout cas s'il m'attrape. Peu de visage qu'on Katinera pas. Les pédophiles errent dans les rues. Ces fils de pute errent dans les parcs. Moi je veux leur briser les pattes. Castration, moi je veux leur briser les bacs. Écraser vos cartes dans la locale. Va pomper tes morts pour la locale. Mais qui va prêter la loca? Si t'en viens aux mains, vas-tu payer l'avocat? À couper une pensée qu'on bâtard. Idée négative, sors pas de ma voix. Je t'y passe en voix. Si ça marche pas, je l'aurais fait pour moi.
C'est la fin de cette première émission. Vous souhaitez nous faire part d'un événement de votre vie qui a été marquant. Vous pouvez nous laisser un message sur radio-b.fr. À très bientôt.